Marseillaise. Aujourd'hui, dans l'émission Voix marseillaise, j'évoquerai le sujet de la prostitution à Marseille dans la première moitié du XXe siècle. Avec Mathias Benachour, guide et spécialiste de l'histoire de la prostitution marseillaise, on va déambuler dans le quartier réservé, du côté de la mairie centrale. On ira faire un tour rue de la République et on finira notre balade historique à Belzunce, à la Librairie internationale de Marseille, autrefois le Grand Hôtel Régence, qui proposait des chambres clandestines aux travailleuses du sexe. Au début du siècle passé, on comptait jusqu'à 7000 prostituées, autorisées ou clandestines, au cœur de la ville de Marseille. L'activité du sexe représentait un secteur important de l'économie de la ville.
Alors le quartier réservé de Marseille, il est assez intéressant parce qu'il se situe au pied de la mairie, entre la mairie et le Fort Saint-Jean. C'est une douzaine de rues à peu près. Et il est créé en 1878 par un décret municipal qui délimite un quartier dédié exclusivement aux activités de prostitution, situé entre les rues de la Reynarde, à l'est, la rue de la Loge et la rue Lancerie au sud, la rue du Radeau à l'ouest et la rue Caisserie au nord. Donc ces quatre rues englobent une dizaine d'autres qui font du quartier réservé le point culminant de la prostitution à Marseille. L'idée de la municipalité, c'était de contrôler les activités de prostitution et de les contenir en un seul lieu. Il faut savoir que la prostitution à Marseille... Dès le Moyen-Âge, en fait, on en trouve un peu de partout dans la ville et ça crée énormément de problèmes. Il n'y a pas vraiment de loi qui interdise les activités de prostitution. On parle de municipalisation des activités à l'époque du Moyen-Âge. À l'époque moderne, c'est beaucoup plus répressif. À l'époque de Louis XIV, on enferme carrément les femmes. Et au 19e siècle, enfin 18e et 19e siècle, une espèce de libéralisation des mœurs et une forme d'industrialisation du sexe aussi qui font de Marseille, qui font que Marseille devient un espace où on a de la prostitution vraiment dans tous les quartiers, à l'Opéra, à Belzunce, à Noailles, sur la Canebière, évidemment ici dans le Panier et ce qu'était l'ancien quartier Saint-Jean. Et pour contenir tout ça, la municipalité décide de créer un registre pour y inscrire les filles et ce quartier-là.
Ici, c'est un peu le début de la prostitution moderne, un peu, c'est-à-dire avec le fait de contrôler, de régenter tout ça, on passe à une autre prostitution à Marseille.
Alors, on a déjà commencé la réglementation prostitutionnelle en France à partir de 1804, sous Napoléon. C'est la période qu'on appelle le réglementarisme, qui est connu sous le nom de système français à l'international. C'est un système qui a été reproduit dans de nombreux pays de France, d'Europe, dans de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs. Et cette réglementation... qui a un aspect, une dimension nationale, qui vise à vraiment créer nationalement un système pour gérer, contrôler les activités de prostitution. Elle se décline ensuite au niveau municipal et préfectoral par d'autres lois qui peuvent être ajoutées. Et cette particularité du quartier réservé, elle n'est pas propre à toutes les villes de France. Elle appartient à Marseille, d'autres villes comme Toulon. Il me semble que du côté de la Bretagne aussi, on a des quartiers réservés ci et là. Et donc, on va appuyer par des réglementations municipales un petit peu plus pour contrôler la prostitution au cas par cas.
Alors, il y avait le service des mœurs pour ça. Et également un médecin qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait Hippolyte Mireur. Alors quel était le rôle et du service et de ce fameux médecin ?
Docteur Hippolyte Mureur, c'est un hygiéniste marseillais qui était le chef, le médecin du service qui contrôlait les femmes. Alors ça pouvait être une fois par mois, ça pouvait être deux fois par mois, ça pouvait être une fois par semaine. Les réglementations ont vachement changé. Parfois, les visites médicales étaient payantes, d'autres fois, elles ne l'étaient pas. Ça changeait en fonction des décennies du 19e siècle. Et le docteur Hippolyte Mureur a joué un rôle important et il est une source hyper importante dans ce qu'on sait sur la prostitution à Marseille au 19e siècle et même avant, puisqu'il a écrit deux ouvrages, un sur la syphilis et un plus général sur la prostitution à Marseille. Il a fait des statistiques, il reprend une partie de l'histoire de la prostitution à Marseille et il nous offre des témoignages de son époque, avec le regard qu'un homme d'un certain âge, avec du pouvoir, peut avoir sur cette activité. On est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un hygiéniste, donc lui, c'est... Voilà, c'est l'idée de l'hygiène, c'est l'idée de préserver la morale, c'est l'idée de contrôler la santé, de préserver la santé des gens. Il va contrôler les femmes, il va inspecter les femmes.
Ces prostituées, elles vivaient dans quel contexte, avec quelle population ici ? Est-ce qu'on peut parler un peu déjà de la population ?
Le quartier réservé, c'est une partie du quartier Saint-Jean. Quartier Saint-Jean qui a une population italienne assez importante. On est sur un quartier populaire de Marseille. On a tout corps de métier. On a des marins, on a des poissonniers, on a des dockers. On a tout type de métiers qui sont représentés dans ce quartier. Et ces femmes, ces travailleuses du sexe, moi j'ai décidé dans mon mémoire de les appeler travailleuses du sexe plutôt que prostituées parce qu'il y a cette notion de choix qu'il faut mettre en avant, même si c'est un débat qui est encore ouvert aujourd'hui. Ces travailleuses du sexe, elles vivent aussi parfois dans ce quartier.
Elles n'étaient pas obligées de vivre dans ce quartier même, là où elles travaillaient ?
Elles y travaillaient, elles n'étaient pas forcément obligées de vivre dans ce quartier. Elles y travaillaient, c'était leur lieu de travail. Mais très tôt, au bout d'une vingtaine d'années, un peu plus, la municipalité fait machine arrière concernant les réglementations de la prostitution. On a remarqué que ce quartier réservé, curiosité internationale, lieu de tous les fantasmes, espace désiré par les marins du monde entier, n'était pas suffisant pour répondre à la demande sexuelle de toutes les personnes qui font appel à ces professionnels. Et au tout début des années 1900, je crois que c'est entre 1905 et 1910, on a les premiers décrets préfectoraux qui autorisent la création de maisons de rendez-vous, des bordels privés, quoi, à l'extérieur du quartier réservé.
Et alors que dans le quartier réservé, c'était surtout des hôtels, des chambres.
Des maisons de tolérance, des hôtels meublés, souvent dans les anciennes grandes demeures bourgeoises de Marseille, parce que le quartier réservé de Marseille, c'est... Avant d'être le quartier réservé, c'est le quartier noble de la ville. Donc c'est toute cette noblesse et bourgeoisie marseillaise qui vivait ici. Donc on avait des hôtels particuliers qui pouvaient être assez fabuleux. Et c'est dans ces lieux-là, dans ces anciens lieux un peu de la haute marseillaise, que se sont retrouvées ces activités-là et qui contrastent avec ces petits nids individuels qui parsèment la ville à partir du début des années 1900 et probablement avant, faut pas se leurrer. Hein. Même si le quartier réservé est le lieu de la prostitution officielle en 1878, il y en a de partout dans la ville. Il y en a à l'opéra, il y en a de partout.
On dit, enfin je l'ai lu, que la prostitution ici était plus populeuse.
Il a ce côté complètement populaire, il est dans un quartier populaire. On vient ici pour s'encanailler aussi, hein. On n'est pas que au contact des travailleuses du sexe, mais on a aussi des fumeries d'opium, on peut avoir du jeu, on peut avoir, on a des bandes de mafieux qui sont là, les nervis marseillais, hein. C'est l'équivalent des apaches parisiens. Donc on a tout un monde un petit peu, entre guillemets, de la criminalité qui vit ici, parce que certainement que les prestations sexuelles sont très bon marché ici. Ça c'est une donnée qui est très difficile de rencontrer, j'en ai toujours pas trouvé, mais je sais où est-ce que je pourrais en trouver dans les archives. Savoir un petit peu quel est le prix d'une prestation ici dans le quartier réservé, ça peut être très intéressant. Et puis le quartier réservé, comme je l'ai dit, c'est un lieu qui est connu à l'international. Donc c'est un lieu qui attire les marins du monde entier. Quand on est en escale à Marseille, on descend, on prend la rue de la République ou on longe le quai de la Joliette et on vient ici dans le quartier réservé. C'est pas un lieu qui est forcément pour le Marseillais, même s'il y a beaucoup de Marseillais qui peuvent le fréquenter. Le Marseillais qui cherche une prestation sexuelle, même si c'est bon marché, il va essayer de trouver un endroit plus discret. Le Marseillais, il veut pas être vu au contact de toute la populace. Il peut vouloir... On est à la recherche de discrétion. Et ça, c'est une des raisons, il me semble, pour lesquelles les maisons de rendez-vous ont été autorisées à l'extérieur du quartier réservé, parce que le quartier réservé, il est ostentatoire. Et la prostitution, ben, c'est une activité qu'on ne veut pas forcément rendre ostentatoire. On a besoin de discrétion. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. J'ai lu des histoires d'affaires sur la Corniche, sur le cours Lyoto, sur la rue de Rome. Et on a ces autres types de maisons de tolérance ou de maisons de rendez-vous qui existent et qui sont pour d'autres populations, ou en tout cas beaucoup plus discrètes.
Quels étaient les établissements ici emblématiques, connus dans ce quartier réservé ?
Alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez précieux. Dans le quartier réservé, on est encore une fois, hein, sur un lieu qui est connu à l'international, qui est un véritable espace de tourisme aussi. Et le tourisme sexuel, il se développe vachement à cette époque. Et donc, on publie des ouvrages, des cartes postales qu'on vend aux touristes de passage à Marseille. Ça peut être édité en français et en anglais. Et donc là, je suis en train de vous montrer un petit ouvrage, un petit guide souvenir des touristes et des étrangers qui s'appelle « Le Marseille curieux », qui a été rédigé par un certain Pierre Dagramont, qui est un pseudonyme, parce que ce Pierre Dagramont n'existe vraisemblablement pas. Et ce guide souvenir des touristes et des étrangers de Marseille reprend cette histoire du quartier réservé. Il nous propose des images. Pour celles et ceux qui sont curieux de voir ce Marseille curieux, il est consultable à la bibliothèque de l'Alcazar au fonds patrimonial au troisième étage. Et ce qui est vraiment intéressant pour ce Marseille curieux, c'est qu'à la fin, il y a toute une partie qui reprend un à un les lieux. Ici, on a chez Aline, ancienne demeure seigneuriale de la famille de Vintot, et en dernier lieu de monsieur Louis de Vintot, marquis de Pennes, seigneur de Bolène et Castellane, conseiller du roi. C'est assez intéressant. On a des typographies et des logos qui sont fantastiques. Rebecca, par exemple, ici, l'ancien hôtel particulier de monsieur Balthazar de Vias, le Théo, au bon plaisir, Clotilde, le Citeria, rue Vintomaggi, Citeria très connu. C'est vraiment un des...
Alors là, qu'est-ce qu'on y faisait dans ces établissement. Est-ce que c'était en consommer, en manger, ou est-ce que vraiment les prostituées pouvaient rencontrer leurs futurs clients ?
C'est des hôtels de passe, hein. c'est des maisons de tolérance, donc on se présente à l'entrée, il faut faire attention à ne pas être mineur, hein. On a des cas, et notamment au Citeria, où j'ai trouvé le Citeria a été fermé pendant quelques jours dans les années 30 parce qu'ils avaient embauché une travailleuse du sexe mineur. Donc, on invite les clients, ils sont invités à boire, à se détendre, on peut manger certainement, ça je sais pas, je l'ai pas trouvé, mais je serais pas du tout étonné qu'on puisse manger à l'intérieur.
Écouter du jazz peut-être ?
Écouter de la musique, bien sûr. Pour ça, on a la littérature qui est un super témoignage, que ce soit André Suarez qui en parle de façon très 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 violente et avec une pointe de racisme.
Lui il rejette, non,
lui rejette complètement. Oui, le quartier réservé, c'est une ville dans la ville, le château fort de la grosse luxure qui roule en pente vers le port.
Mais pourquoi vous pensez qu'il a mis les pieds ici et il a été dégoûté ou...
Par curiosité, je pense. Il y a beaucoup d'auteurs marseillais qui sont venus par curiosité, d'artistes de manière générale qui sont venus jeter un coup d'œil. Comme on peut vouloir aller voir des endroits un peu obscurs. Horace Bertin est passé aussi par ici et il a écrit sur le quartier réservé. Alors il le voyait de façon plutôt positive au début de sa carrière de journaliste. Et à la fin, il avait un tout autre regard sur ce quartier.
Qu'est-ce qu'on détestait alors ici ? C'est la saleté, c'est le manque d'hygiène, c'est le mélange des gens ?
Oui, c'est peut-être un tout. C'est peut-être un tout. Ça dépend peut-être de la personne qui regarde ce quartier réservé aussi. Claude Maquet, il voit beaucoup de joie.
Claude Maquet, on peut rappeler que c'est un auteur noir américain qui est venu ici dans les années 20.
Exactement.
Et il a écrit un livre qui s'appelle Bonjo et qui témoigne. Enfin, c'est comme une sorte de documentaire un peu de la vie ici, quoi.
Exactement. Claude Maquet. nous offre une description et un voyage dans ce quartier réservé, dans ce Marseille des années 20 qui est assez fantastique. Et la dimension musicale de son ouvrage est très intéressante parce qu'on y apprend le jazz, on y apprend le charleston présent à Marseille à ce moment-là. Quand on lit André Suarez qui a écrit Marcillo, qui est un auteur local, il fait une image du quartier réservé qui est assez abominable, où il parle de vacarme, d'orchestre noir, de musique de l'enfer.
Rejeter le cosmopolitisme peut-être ?
Oui, certainement, complètement même. L'ouvrage Marcillo est un ouvrage très xénophobe. Un genre de « c'était mieux avant », André Suarez, on déteste le bâtiment de la Bourse, on déteste ci, on déteste tel monument, c'est un chancre, ça c'est pas beau, c'est pas bien, eux c'est pas cool. Donc voilà.
Il a une réputation dans la littérature française et locale assez élevée.
Oui, oui, oui. Mais assez élevé, ça, c'est pas le plus connu des auteurs français non plus, André Suarez. Mais dans ce bouquin, Marcillo, il est particulièrement violent et il dénonce pas mal de choses, quoi. Ou en tout cas, il est vachement critique sur plein de lieux, d'espaces et de types de personnes qu'on a à Marseille. Il a une certaine admiration pour le bâtiment de la mairie.
Il faut dire qu'ici, donc, les Allemands ont sauvegardé, entre guillemets, les monuments historiques. Ils n'ont pas détruit les monuments historiques quand ils ont rasé ce quartier. Ça a été, je crois, négocié par les Français, les autorités municipales et de Vichy, pour qu'on épargne le dynamitage de ces monuments. C'est pour ça qu'on est encore avec l'hôtel de ville, la maison diamantée, l'hôtel de Cambre.
Bah, on est sur tout un complexe aussi de la municipalité. On a une municipalité qui collabore.
Les prostituées ici dans le quartier réservé, elles étaient encadrées par des MAC, comme on dit à l'époque. Est-ce que c'était assez organisé ou assez diffus? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de souteneurs qui avaient leurs filles. Comment fonctionnait un petit peu toute cette organisation?
On a un système qui ne fait pas la promotion de la gestion de la prostitution par des individus particuliers. Le système réglementariste, il invite les travailleuses du sexe à s'inscrire sur le registre qui est à la mairie, à récupérer leur carte de fille soumise, une carte de fille soumise à la réglementation, carte qui reprend toutes leurs caractéristiques physiques. Et ces femmes-là sont obligées d'avoir un lieu attribué et une adresse de résidence de leur lieu de travail en général. Et elles sont tenues de travailler dans cet espace. On a des tenanciers et de tenancières de maisons de tolérance. Dans les registres de recensement des années 15 et des années 20, dans la case métier, il peut y avoir écrit « fille soumise » ou « tenancier, tenancière de maisons de tolérance ».«
Fille soumise », ça veut dire prostituée ? C'était comme ça qu'on les appelait ?
Oui. C'est le nom qu'on leur donnait. Elles étaient détentrices d'une carte de fille soumise et elles étaient distinguées des insoumises, celles qui refusaient la réglementation. Parce que la réglementation impliquait non seulement le fait de devoir travailler dans une maison, d'avoir une autorisation de travailler, d'être inscrite sur le registre, mais ça impliquait également la visite médicale obligatoire une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois par mois. Et lorsqu'elles avaient également une carte médicale en leur possession et lorsque la visite s'avérait se passait mal et que les filles étaient déclarées malades, elles étaient envoyées d'office à l'Hôtel Dieu au pavillon Sainte-Magdeleine jusqu'en 1863, puis à l'Hôpital de la Conception dans le pavillon qui portait le même nom à partir de 1863. Et cet hôpital et ce pavillon-là avaient un esprit carcéral. On n'était pas dans un hôpital où on rentre, on sort comme on veut. C'était un hôpital dans lequel on restait tant qu'on était malade. Et donc, la soumission à cette réglementation était d'une vraie violence pour ces travailleuses parce qu'elles n'avaient aucune liberté et que lorsqu'elles contractaient une maladie vénérienne, elles l'avaient forcément attrapée par un client. En tout cas, on va dire dans la grande majorité des cas. Mais ces hommes-là n'étaient pas condamnés ou n'étaient pas gérés de la même façon. On les invitait à, je vais citer les archives, s'enduire les bourses d'un corps gras, à uriner avant et après l'acte, à se contenter d'un seul coït et à préférer les maisons, les femmes de maisons de tolérance plutôt que les racoleuses de rue. Donc il y a tout un système de prévention pour contrer le péril vénérien qui est annoncé, qui est mis en avant pour les hommes. Et à côté de ça, tout un système répressif de condamnation qui est réservé aux travailleuses du sexe et aux femmes.
Donc le client, lui, il n'était jamais dérangé par la police et on autorisait alors le client à aller voir les prostituées?
Le client est autorisé à partir du moment où il va profiter des services et des prestations sexuelles dans un lieu qui est autorisé par la municipalité. Si le client est attrapé dans un lieu clandestin, chose très fréquente à Marseille, les lieux de prostitution clandestins, là, c'est une autre affaire. Il peut recevoir une amende, être conduit au poste. C'est une autre affaire.
On parle des bandes qui, j'allais dire, sévissaient ici et qui contrôlaient la prostitution aussi. On parlait des Corses, des Noirs qui étaient à Marseille, également de militaires, de légionnaires. Alors comment se passait un peu cette cohabitation? Donc finalement, ces filles étaient soumises, mais étaient soumises à des bandes.
Il y avait des bandes, il y avait de la rivalité. Si on parle de sexualité, de prostitution, ben, c'est une économie souterraine, c'est une économie qui n'est pas officielle, mais c'est une économie quand même, qui génère pas mal de revenus. Et donc forcément, avoir son morceau de trottoir, avoir ses travailleuses, c'est une façon de s'assurer un salaire. Et on a donc toutes ces bandes qui arrivent à Marseille, donc comme vous l'avez dit, les Corses ou les Italiens ou les Noirs qui peuvent être Afro-Américains ou Sénégalais d'anciennes AOF ou AEF. Et qui sont là et qui vont maîtriser certains bouts du quartier réservé, qui vont se faire la guerre les uns les autres.
La police les regarde et compte les points.
André Suarez dit, dans le chapitre qu'il consacre au quartier réservé, qu'il a appelé le Grand Lupanar, que la police elle reste aux abords du quartier et qu'elle ne regarde pas trop ce qui s'y passe à l'intérieur. On peut penser que ça se passe un peu comme ça. Alors, à partir du moment où il y a un meurtre, évidemment que des gens sont dépêchés sur place, ou quand il y a un peu trop de castagnes, on va aller voir qui a fait quoi, poser des questions. En général, personne n'a rien vu, rien entendu et n'a rien à dire. Mais est-ce que la police est réellement efficace à cette époque-là? Est-ce que le service des mœurs, qui est en charge de contrôler les activités de prostitution, a quelconque pouvoir sur cette activité-là? Vraiment, on peut en douter. La quantité de policiers, les effectifs de police sont ridicules par rapport à une ville comme Marseille et par rapport au nombre de travailleurs et travailleuses du sexe qu'il y a dans la ville. Dans mon étude que j'ai faite et dans les recherches que j'ai faites aux archives, je suis tombé sur un document du directeur du service des mœurs qui s'indigne et qui demande plus d'effectifs au préfet parce que c'est pas suffisant d'avoir que 4 à 6 policiers pour couvrir l'ensemble de la ville de Marseille le soir, la nuit. Quand on sait que les activités de prostitution sont des activités nocturnes plus que diurnes. De jour, on va compter à 3, 4 ou 4, 5 équipes, 4 à 6 officiers. Donc c'est vraiment ridicule. Les moyens ne sont pas au rendez-vous pour réellement contrôler. Les idées sont là. Les décrets apparaissent par moment. Hein. Tous les 10 ans, on a un nouveau décret qui va dire que la prostitution doit se passer de telle et telle façon, à tel et tel endroit. Les autorisations peuvent être données dans tel ou tel cas. Mais on voit que tout le monde est dépassé.
On est donc place Sadi Carnot, ici, rue de la République. Et donc, rue de la République se pratiquait une autre prostitution un peu par rapport au vieux quartier, au quartier réservé. C'était plus discret, dans des appartements bourgeois, entre le premier et troisième étage. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette prostitution ?
Mais c'est une prostitution qui est nécessaire et peut-être plus marseillaise que celle du quartier réservé, du point de vue de la clientèle. À une époque où le quartier réservé donc explose et attire des gens du monde entier, mais il faut trouver d'autres espaces de discrétion et la rue de la République offre ces lieux, offre ces espaces, ces possibilités-là. Et donc dans ces immeubles bourgeois hein, qui sont de style haussmannien, parce que la rue de la République elle est construite dans cette même idée d'hygiénisme du 19e siècle et sur les mêmes modèles qu'on a pu voir à Paris avec le baron Haussmann et la destruction de plein d'espaces, la rue de la République répond à ces mêmes objectifs. Mais elle ne les atteint pas complètement. On n'a pas autant de commerce, on n'a pas autant de personnes issues de la bourgeoisie qui viennent s'installer ici. Et on a par endroits de nombreuses maisons de rendez-vous non autorisées, parfois autorisées, qui s'installent et qui vont drainer clients, macs, mafieux et travailleuses du sexe aussi. Et on a pas mal d'espaces ici qu'on peut retrouver dans la littérature, dans certaines études aussi sur la rue de la République qui mettent en avant donc, du coup, la présence d'activités prostitutionnelles sur cette rue. Elle est même l'objet d'un ouvrage qui a été écrit par Sylvain Patieux. Sylvain Patieux, c'est un historien qui a écrit une thèse sur les souteneurs noirs dans le quartier réservé à Marseille dans les années 20. Et il a écrit un roman historique qui s'appelle « Le bonheur pauvre rengaine » et qui est basé sur un cas précis. C'est le meurtre d'une travailleuse du sexe, une prostituée, très près d'ici, très près de la place Sadi Carnot. Elle a été tuée et donc, dans ce roman, on suit un petit peu l'enquête de ce meurtre de cette femme. Et donc du coup, on découvre un petit peu le paysage, l'ambiance et la réalité que cette rue a pu connaître.
Quelle était l'origine de ces prostituées ici, rue de la République et dans le quartier réservé? On sait un petit peu, on connaît leur parcours, leur histoire, et c'était des étrangères ou pas?
Alors, les informations qu'on peut avoir sur les prostituées sont disponibles aux archives lorsqu'on a des noms de femmes qui apparaissent dans les procès-verbaux de police. Malheureusement, le registre sur lequel s'inscrivaient les prostituées, où elles étaient répertoriées, les registres ont disparu. En tout cas, on ne les trouve pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais vu de travaux de personnes qui ont pu les utiliser. La seule source, on va dire valable, c'est le docteur Hippolyte Mireur qui, lui, a fait des statistiques et qui mentionne une présence plus importante de Françaises que d'étrangères. Des femmes qui faisaient des petits métiers, blanchisseuses, couturières, domestiques. Un taux d'analphabète supérieur à celui de celles capables de lire et écrire. Des étrangères, des Suisses, des Algériennes, des Allemandes, des Anglaises. Beaucoup de femmes de la région, beaucoup de femmes des Alpes, des Marseillaises, bien évidemment. Quelque chose qui se pratiquait par Marseille et pour aller en dehors de Marseille, c'était la traite des Blanches. Pas que par Marseille, hein, ça se pratiquait de partout. Donc on envoyait des femmes d'ici vers les autres continents, vers les autres pays et elles pratiquaient leur activité. D'autres choses qui se pratiquaient, c'était de ramener des femmes de l'ailleurs pour qu'elles travaillent ici. Les maisons de tolérance, les hôtels de passe, essayer de proposer une diversité de professionnels pour satisfaire un maximum de clients. Donc c'était pas étonnant de trouver une Française, une Algérienne, une femme d'Afrique subsaharienne, une Juive. On avait des Anglaises aussi. La littérature nous aide vachement et la description qu'en fait encore une fois André Suarez est aussi intéressante parce qu'il met en avant justement les multiples nationalités qui sont présentes dans le quartier réservé.
Alors les clients qui venaient ici, c'était, j'ai cru comprendre, des soldats américains, anglais. Il y avait également des couples adultères, paraît-il, qui venaient dans ces maisons de rendez-vous, hein, discrètement. C'est peut-être une prostitution un peu différente du quartier réservé ?
Oui, c'est une prostitution plus discrète, qui ne veut pas se montrer. Donc c'est le lieu idéal pour les couples adultères. C'est les espaces cachés nécessaires pour satisfaire les gens en demande de prestations sexuelles différentes. On a des maisons de rendez-vous, c'est une chose, mais on a ce que Alain Corbin appelle les magasins prétextes aussi. Donc on parle de maisons de rendez-vous, c'est une chose, mais il y a aussi tout un tas de commerces, des salons de beauté, des coiffeurs, des salons de manucure, des chapeliers, qui jouent aussi le rôle de maisons de tolérance et qu'on trouve dans pas mal d'endroits de la ville et qui vont même jusqu'à oser proposer leurs prestations dans les journaux à travers des petites annonces, salon de pédicure, vibro. Je vais vous en lire un que j'ai avec moi. Madame Mado, pied-à-terre, donc ça c'est soi-disant un hôtel, mais qui est un hôtel de prostitution, mais qui se fait passer pour un hôtel et qui met son annonce dans les journaux.
Ici, rue de la République.
Alors non, ici on n'est pas rue de la République, on est rue Longue des Capucins, on n'est pas très loin, mais rue de la République, y avait des bars aussi, et les bars qui jouaient aussi ce rôle. Un bar où, comme on pouvait les appeler, les débits de boissons, n'avaient pas normalement cette fonction de lieu de prostitution, mais ils la prenaient.
Il y avait des prostituées qui travaillaient comme serveuses. Elles faisaient consommer le client et ensuite elles allaient dans les appartements. Parfois, paraît-il, elles pratiquaient la prostitution sur place, mais c'était plus rare, hein, je crois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ces établissements qui se trouvaient, je crois, plus vers la place de la République, là-bas ? Ils avaient souvent des noms américains, ces établissements.
Oui, le bar américain, c'est un nom qu'on pouvait donner, l'American Bar. Il y a pas mal d'espaces, des bars au passage des Lorettes et plus sur la rue de la République. C'est un lieu où les bateaux arrivent. Donc on est directement dans le cœur du problème. La prostitution, dans l'histoire, elle s'est toujours établie dans les espaces à forte densité de population. À l'Antiquité grecque ou romaine, on avait des tentatives de créer des espaces de prostitution à l'extérieur de l'agora ou du forum, qui sont des espaces de vie, mais on trouvait énormément de travailleuses du sexe parce que là où il y a du monde, il y a de la demande et il faut répondre à cette demande. Donc ça se passait et c'est exactement ce qui se passait ici sur la rue de la République et au niveau de la rue de la Joliette et de la place de la Joliette. On avait des établissements aussi qui proposaient ça, des bars qui ont une salle, accueillent des clients, des femmes serveuses qui vont jouer leur rôle et qui parfois vont s'éclipser dans la salle arrière ou à l'étage au-dessus, une salle qui appartient en général au bar aussi. Et on a donc des activités qui peuvent être pratiquées dans ces lieux.
Généralement, paraît-il, la justice les condamnait assez mollement, quoi. Il n'y avait pas une sévérité extraordinaire. En tout cas, les tenanciers des bars.
Bah, ça peut être des fermetures temporaires, des fermetures de un jour, deux jours, une semaine, un mois, si c'est vraiment s'il y a une d'importante récidive, une amende, une petite amende. Les gains de la prostitution couvrent probablement les amendes qui sont payées, donc ça invite les personnes à recommencer. Et puis. Puis c'est des lois économiques, quoi. C'est des lois de l'offre et de la demande. Donc si Marseille a ce rôle de ville de prostitution, en tout cas cette idée, ce fantasme qui est propagé de partout et qu'énormément de marins viennent pour ça, mais il faut répondre à cette demande-là.
Les marins de Bonjo, le livre de Maquet, évitaient de venir ici parce qu'ils avaient peur d'être contrôlés.
Oui, c'est un lieu de passage important. Là, on est devant le siège des anciennes messageries maritimes, qui est une compagnie de navigation hyper importante. Il y a de la police, il y a du contrôle, il y a d'autres sièges, d'autres compagnies. Il y a des hôtels.
Il y a un commissariat aussi ici.
Il y a un commissariat, exactement. Et donc, il y a toute cette activité légale qui est présente et donc sur laquelle on exerce un contrôle. Donc, comme vous le dites si bien, dans Banjo, on situe l'action près des docks de la Joliette, près des actuelles voûtes de la Major, au niveau du quartier réservé et du Vieux-Port. On va éviter ces grandes artères parce que la rue de la République, c'est une nouvelle artère qui est très importante, qui connecte le Vieux-Port et les ports de la Joliette. Donc voilà, on va éviter ces lieux-là parce que la prostitution, lorsqu'elle n'est pas autorisée, elle est illégale. Lorsqu'elle est illégale, elle est condamnable. Et lorsqu'on est étranger, c'est encore plus compliqué.
Bien, bon, on va aller maintenant du côté de Belzunce, Mathias, pour un peu explorer ce qui se passait là-bas.
Là-bas, sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Hautaine, dédaigneuse, tandis qu'hurle le poste de radio, couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et, l'esprit ailleurs, semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Princesse des ténèbres, archange maudit, Amazon modern style que le sculpteur en anglais surnomma Spirit of Ecstasy. Déconner avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre.
bien, donc Mathias, on est maintenant ici à la Librairie internationale de Marseille, dans le quartier de Belzunce. Anciennement, c'était une pharmacie et avant, l'hôtel de Régence. Il y avait également une maison de passe ici, on va en parler tout à l'heure. On est ici parce que vous voulez aussi montrer qu'il n'y avait pas que le quartier réservé où on pouvait pratiquer la prostitution, c'était aussi hors les murs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce quartier de Belzunce par rapport à la prostitution à l'époque, donc dans les années 20, 30?
C'est vrai que le quartier réservé a pris une place importante dans l'histoire de la prostitution marseillaise. Il a un petit peu caché toutes les autres réalités des activités sexuelles de la ville. Et il y a une chose qui est très importante, ce sont toutes les activités clandestines qui ont existé et qui ont existé sur l'intégralité du territoire marseillais. Et pour ce faire, ces activités clandestines, elles se sont appuyées sur des décrets préfectoraux, des arrêtés préfectoraux qui ont ôté le monopole de la prostitution au quartier réservé. Donc, entre 1902 et 1939, on a 4 arrêtés préfectoraux qui autorisent la création de maisons de rendez-vous en dehors du quartier réservé. Et donc là, je vais vous citer l'article 19 de l'arrêté préfectoral de 1918 qui dit « Il est expressément interdit de tenir une maison de rendez-vous sans en avoir obtenu l'autorisation. La demande, adressée sur papier timbré au préfet, doit indiquer l'état civil de la pétitionnaire, l'adresse de la maison, les noms et adresses du propriétaire et spécifier en outre, pour les pensionnaires, le mode de contrôle sanitaire. » Aucune autorisation d'ouverture de maison de rendez-vous ne peut être accordée dans un rayon de 250 mètres d'un édifice consacré à un culte, des hôpitaux, hospices, asiles, des écoles, collèges, gares de chemin de fer ou autres établissements publics. Ces décrets-là, cet arrêté-là, cet article, ils donnent l'aval à tous les professionnels du sexe et les tenanciers-tenancières d'ouvrir leur propre maison en respectant les conditions. Et donc en dehors du quartier réservé. Et ça montre bien, d'une part, l'échec des politiques réglementaristes et cette volonté de contenir les activités dans le seul quartier réservé, mais aussi que y a des demandes et que la prostitution, elle s'appuie aussi sur cette volonté de discrétion. Il y a besoin de discrétion. Moi, j'ai fait une analyse et une recherche de tous ces espaces clandestins à Marseille pendant l'entre-deux-guerres. Et j'ai découvert que une grande majorité des espaces clandestins répertoriés par la police, hein, parce qu'il est fort probable qu'il y ait beaucoup plus d'espaces clandestins de prostitution qui existaient, mais dont on n'aura jamais la trace, parce qu'on n'a pas d'archives, on n'a pas de documents palpables qui permettent d'en témoigner. Ce que j'ai trouvé à partir des documents en notre possession, c'est que le centre-ville abrite plus de 97% des espaces de prostitution clandestine de Marseille. Et dans ce centre-ville, c'est le quartier de Belzunce qui abrite en lui le plus grand nombre de lieux de prostitution, bars, maisons, hôtels de passe inclus. On en a, sur la période de l'entre-deux-guerres, près de 137 occurrences, adresses, qui sont dans cet espace. Et c'est assez impressionnant. Parce qu'on voit que le Belzunce joue en quelque sorte un rôle de concurrent du quartier réservé. C'est un sas de sexe un peu plus discret que le seul quartier réservé.
Ici, c'est quelle rue là en face?
Alors la rue, on est donc à la Librairie internationale de Marseille. On a au niveau de la rue Vincent Scotto qui s'appelait à l'époque la rue de l'Arbre, qui a changé de nom. On est au niveau de l'hôtel de la Régence qui a une histoire assez particulière. Il y a un dossier assez fourni dans les archives sur ce bâtiment. Et cet hôtel qui a été acheté par un certain Paul Guélon en 1930 à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Et Paul Guélon, qui vient de Poitiers, descend à Marseille, achète cet hôtel à bas prix. Mais lorsqu'il l'achète, il n'est pas au courant que c'est un hôtel de passe. Lorsqu'il prend possession des lieux, qui s'y installe, il remarque qu'il y a une fréquentation du lieu par des travailleuses du sexe et il est stupéfait. Et donc, dans un des procès-verbaux, on peut lire « Lorsque Guélon prit possession de l'hôtel, il trouva une clientèle composée en majeure partie de gens tarés aux mœurs dépravées et son premier souci fut de se débarrasser de tous ces déchets de la société. »
C'est lui qui parle comme ça?
C'est sa plainte. Donc, il y a tout un dossier qui est vraiment assez épais. qu'on peut trouver dans les archives. On est aux 3 rues de l'Arbre ici, et Paul Guélon se plaint en fait de la des populations que fréquente cet hôtel. Sauf qu'il ne sait pas une chose, c'est que cet hôtel, qui est fréquenté par des prostituées, est aussi en quelque sorte géré, encadré, contrôlé par un inspecteur du service des mœurs, qui est un policier corrompu, tout simplement, l'inspecteur Stéphanie, qui pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, a racketté Paul Guélon en lui demandant de lui payer des restaurants, de l'inviter à faire des sorties en bateau au Frioul, une sortie à la Sainte-Baume, en lui demandant de lui payer des bouteilles ici, en lui demandant de lui payer des bouteilles et des restaurants à tel autre ami qui tient un hôtel de passe juste en face à Noailles. Paul Guélon se retrouve prisonnier d'un système qui ne comprend pas vraiment, parce que la menace de l'inspecteur Stéphanie, qui a le pouvoir, c'est de faire fermer son établissement. Et si l'inspecteur Stéphanie fait déclarer l'hôtel de la Régence lieu de débauche clandestin, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de travailler. Et donc du coup, il répond favorablement à toutes les requêtes de l'inspecteur Stéphanie. Et dans un autre procès-verbal de ses archives, la réceptionniste Antoinette Bressy déclare dans le procès-verbal que Stéphanie aurait dit « Votre maison est mon bordel, nous sommes chez nous ici, servez-nous du champagne ». Et c'était Antoinette Bressy qui était en charge de servir le champagne. Ça fait sourire quand on le lit, mais on apprend combien de fois monsieur l'inspecteur Stéphanie est arrivé ivre-mort, s'affalant sur les canapés, en réclamant du champagne... Comme si c'était son lieu, quoi, jouant quasiment le rôle de Mac, ou en tout cas, c'est lui qui relevait les compteurs au final. Donc ça fait partie de ces histoires de prostitution clandestine difficilement repérables, mais là, en l'occurrence, ça fait un gros scandale, hein, parce qu'il a été démis de ses fonctions, il y a toute une enquête qui a eu lieu en interne au niveau du service des mœurs. On perd la trace de Stéphanie pendant plusieurs années à partir du mois de juin de l'année 1923. On est dans les années 20.
On peut parler aussi de ce que rapportait la prostitution pour les prostituées elles-mêmes, parce que c'est une économie quand même. À cette époque, on comptait de prostituées officielles et officieuses près de 7000 dans ces quartiers ici au centre-ville.
Alors ça, c'est les chiffres. C'est parmi les seuls chiffres qu'on a, ce sont les chiffres du docteur Hippolyte Mireur. Donc ils sont pas, c'est pas des chiffres des années 20. Moi je pense qu'il y en avait beaucoup plus que ça dans les années 20. Les chiffres du docteur Mireur sont valables à partir des années 1880. Donc c'est 40 ans plus tôt. Mais voilà, ce que Mireur dit, c'est que 7000 prostituées soumises ou insoumises, qui représenteraient environ 2% de la population, ce qui est énorme. La prostitution est une économie clandestine, une économie souterraine qui génère des profits qui peuvent être assez importants. Et pour les travailleuses du sexe, c'est une façon aussi de s'émanciper beaucoup plus facilement que de travailler à l'usine, ou de travailler comme couturière, ou de travailler comme blanchisseuse 10 heures par jour et gagner un salaire de quelques francs. Et dans le cadre de cette étude sur les économies prostitutionnelles, j'ai retrouvé un procès-verbal d'une travailleuse du sexe qui s'appelait Marguerite Leloutre.
Qui était à son compte.
Qui était à son compte, 24 ans, qui travaillait aux 63 rue Longue des Capucins, donc à 2 pas de où nous sommes, qui a été interpellée le 3 juin 1921 par l'agent de police Marcel Burle. Et dans son rapport, elle déclare « Depuis environ 1 an, je me prostitue dans la maison de rendez-vous tenue par la dame Giban, rue Longue des Capucins, numéro 63. Je me tiens habituellement dans le salon où les clients viennent nous trouver. Pour chaque passe, la dame Giban perçoit 2,50 francs qui lui sont remis par le client. Je fais en moyenne 7 à 8 passes par jour, ce qui me rapporte environ 20 francs. Depuis mon entrée dans cette maison, j'ai toujours vu au moins 2 femmes se prostituer. Les passes se font soit dans une pièce voisine du salon, soit dans une chambre au premier étage appartenant à la dame Giban. Personnellement, je me prostitue chez la dame Giban régulièrement de 14h à 19h. Lui persiste et signe Leloutre. » Cette déclaration est hyper intéressante parce qu'elle nous donne des chiffres très précis. Elle gagne 20 francs par jour en travaillant 5 heures. Donc elle gagne 4 francs de l'heure. On a des études sur le monde ouvrier, sur les industries marseillaises, qui nous disent que des ouvriers peuvent gagner 3 francs par jour. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Elle vend son corps, tout ce qui se passe au travers de la prostitution et de la vente de son propre corps, c'est une chose, mais la réalité économique, elle est là, elle est très différente.
Donc on pouvait gagner dignement sa vie en se prostituant, quoi.
Je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont préféré travailler en tant que prostituée et exercer plusieurs heures par jour plutôt que de se tuer la tâche à l'usine. Et la tenancière, parce qu'il faut parler de la tenancière aussi, le calcul que j'ai fait, c'est qu'elle percevait à peu près 1200 francs par mois avec trois travailleuses du sexe qui viennent chez elle entre 14h et 19h et qui font chacune entre 7 et 8 passes. Et elle, sans rien faire, simplement en louant ses locaux, elle perçoit 1200 francs par jour. Et elle a ses matinées et ses nuits. La prostitution, c'est une vraie activité qui a été cachée, qui a été mise de côté, qui a été interdite, qui a été contrôlée, qui a été censurée, qui a été condamnée. Mais c'est une activité économique. Ça a fait vivre des gens. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ont demandé des ouvertures de maisons de prostitution. Il y a énormément de demandes d'autorisation d'ouverture de maisons de rendez-vous et autres. Beaucoup ont été refusées. Mais s'il y a autant de demandes, c'est parce qu'il y a un gain à la clé. Il y a quelque chose derrière.
Bien, Mathias, nous allons maintenant finir cette émission consacrée à la prostitution à Marseille dans la première moitié du XXe siècle par quelques citations de racolage.
Beaucoup de plaintes de la part des habitants et beaucoup dans le quartier de Belzunce, avec beaucoup de commerces qui s'indignaient de voir des travailleuses du sexe. Et un des habitants, un commerçant de la rue Tapis Vert, écrit à la préfecture en disant « La conduite scandaleuse des filles publiques qui non seulement harcèlent les passants de leurs propositions énoncées à voix telles que « Viens, je te fais minette, tu sais, toute nue et nous deux nous sommes bien, pour 10 francs je te la suce, viens chérie, vois comme je suis belle. » Et cette citation elle est assez intéressante parce qu'on voit le prix. Tout à l'heure on avait des passes à 5 francs et là on a une fellation à 10 francs. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Et le côté très transgressif de la fellation rend la prestation encore plus onéreuse. Et c'est tout ce genre de choses qu'on peut atteindre dans les rues et lire dans les archives. Parce que la prostitution, l'acte se fait dans la maison, dans l'appartement, dans la chambre, rarement dans la rue. Mais la négociation, c'est la rue. Et donc la prostitution est présente dans toute la ville. Complètement dans toute la ville, dans la rue, dans les bars, dans les restaurants, au cabaret, au cinéma. Et donc c'est vraiment une activité qui a été tellement bien cachée, tellement bien mise de côté.
Merci Mathias, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Voix marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.